Bonjour à toutes et à tous. Bon, il est 30, je prends la parole quelques secondes, le temps de laisser les derniers quelques retardataires arriver. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous de l'année 2022, qui est dans la continuité, en tout cas, qui s'inscrit, ce rendez-vous entre midi et science s'inscrit dans la programmation de l'exposition Risque. Et donc, on vous parlera d'un type de risque. On l'évoquait tout à l'heure par rapport à l'exposition qu'on pourrait présenter comme un risque incertain, c'est-à-dire que on connaît les aléas, mais on a du mal à évaluer leur fréquence. Eh bien, c'est exactement ce qui peut, pour l'illustrer, on va prendre l'exemple de la haute montagne, de la montagne, mais de la haute montagne en particulier, puisque aujourd'hui, on observe une recrudescence, une augmentation des aléas de type éboulement, écroulement rocheux. Et donc, pour parler de ce phénomène et d'en comprendre les causes, eh bien, nous avons le plaisir d'inviter Philippe Deligne, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, au laboratoire EDITEM, donc le laboratoire environnement et dynamique de la montagne, j'ai rien oublié, et du territoire, voilà, je sais qu'il me manquait le thé. Qui va nous parler donc sur le principe de nos cafés-débats entre midi et sciences. Pendant une petite demi-heure, Philippe va nous parler du sujet, nous évoquer un petit peu les différentes pistes autour de ce sujet. Tu me disais que si les gens veulent intervenir ou ont besoin de précision, vous pouvez le faire entre-temps. Et sinon, bah, on garde la deuxième partie, la deuxième demi-heure, pour répondre, où tu répondras à toutes les questions de l'Assemblée. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et c'est à toi.
Merci Jean-Yves. Eh bien, donc, je vais en effet vous présenter quelques éléments concernant le permafrost, sa dégradation et les effets qu'a cette dégradation sur différents milieux, en particulier en milieu de montagne. Donc, sur cette photographie du massif du Mont Blanc, on voit des glaciers, on voit de la neige, mais il y a aussi beaucoup de permafrost, mais on ne le voit pas. Ici, c'est une photographie au Svalbard. Là, il y a de la neige, il y a aussi beaucoup de permafrost, et on ne le voit pas. Donc, effectivement, le permafrost, dans le paysage, ça ne se voit pas. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser un petit peu à définir ce qu'est le permafrost et à expliquer un peu où est-ce qu'il peut se trouver. Alors, le permafrost, c'est un état thermique. C'est-à-dire que si je mets un thermomètre dans un terrain, que la température que relève ce thermomètre est négative, inférieure à 0 degré, pendant 1, 2, 3 ans consécutifs, on a à ce moment-là du permafrost. Évidemment, s'il y a eu de l'eau dans ces terrains, eh bien, cette eau est devenue de la glace. Et donc, à ce moment-là, dans ces terrains caractérisés par le permafrost, on a de la glace. Alors le permafrost occupe une part importante de ce qu'on appelle la cryosphère. La cryosphère, c'est l'ensemble de la glace, la banquise, la neige, le permafrost. Vous avez ici une image qui vous représente un petit peu la distribution de cette cryosphère à la surface de la Terre. Et en rose, ici, rose foncé, rose clair, eh bien c'est le permafrost. Et ce permafrost occupe un quart de la superficie des continents de l'hémisphère nord. Donc ça occupe une très très vaste superficie, en particulier dans l'hémisphère nord. Ici, vous avez une carte un peu plus détaillée de la distribution de ce permafrost. Bien sûr, vous voyez un certain nombre de couleurs. Elles représentent l'extension de ce permafrost en fonction de la couverture du permafrost. Donc, quand on est dans les bleus foncés ici, eh bien, 90% des surfaces sont caractérisées par la présence de permafrost. Et puis, quand on descend en latitude vers les rouges, eh bien, on a des pourcentages qui descendent jusqu'à de l'ordre de 10%. C'est-à-dire qu'on va trouver du permafrost à certains endroits et pas à d'autres. Notez également qu'on a du permafrost sous l'océan, ici, sur la plateforme continentale, donc dans l'océan glacial arctique. Donc même sous la mer, on a du permafrost. Alors ce permafrost, on le trouve également en montagne, dans les Alpes par exemple. Vous avez ici une carte de la distribution du permafrost en Suisse, avec deux types de couleurs, selon que le permafrost est possible ou probable. Retenons que la superficie occupée par le permafrost est de l'ordre de 3 fois celle occupée par les glaciers. Donc on a beaucoup plus de surfaces en montagne qui sont concernées par le permafrost que recouvertes par les glaciers. Vous avez ici une vue cavalière de la Vanoise, ici Pralognan ou le lac du Mont-Cenis pour situer un peu les choses, et la frontière avec l'Italie. L'Italie est au fond là-bas en quelque sorte. En blanc, ce sont les glaciers de la Vanoise par exemple ici. Et puis avec les couleurs donc de chaud à froid, eh bien c'est la distribution du permafrost. Quand c'est les couleurs chaudes, probablement, possiblement du permafrost. Quand c'est les couleurs plutôt froides, les bleus par exemple, eh bien c'est probablement du permafrost. Là encore, vous le voyez, l'extension du permafrost dans le massif de la Vanoise est nettement supérieure à l'extension des glaciers. Alors ce permafrost, il est plus ou moins épais. Quand on est très haut en latitude, vers le pôle Nord, alors bon, ici on est à 74 degrés, donc on n'est pas vraiment au pôle Nord, mais enfin on est quand même déjà dans la région arctique, eh bien vous voyez que l'épaisseur peut être de plusieurs centaines de mètres. Et puis quand on descend en latitude, ici on est au Canada, donc ben, vous voyez qu'on a des épaisseurs qui vont être de l'ordre de la dizaine de mètres seulement. Et dans le même temps, la couche active, c'est-à-dire la partie qui va dégeler pendant l'été, qui va regeler pendant l'hiver, eh bien cette couche active va être de plus en plus épaisse. Et vous voyez que lorsque l'on est assez bas en latitude, quand je dis assez bas, on est quand même assez proche du cercle polaire, hein, 61 degrés de latitude nord, eh bien on a une couche active qui est nettement plus épaisse que lorsque l'on est au contraire aux hautes latitudes. Cette épaisseur du permafrost, elle est parfois tout à fait considérable. Vous avez ici une carte de l'épaisseur du permafrost en Sibérie. On ne va pas la détailler, mais vous voyez ici avec les teintes qui sont très foncées, on a plus de 500-600 mètres de permafrost d'épaisseur. Et le maximum qui a été mesuré, c'est 1600 mètres. Donc 1600 mètres sous le sol, il y a encore donc des terrains qui ont une température donc négative. Alors ce qui est étonnant éventuellement, c'est de constater qu'on a du permafrost dans cette partie orientale de la Sibérie, et puis finalement on n'a rien du tout ici, bien qu'on soit aux mêmes latitudes. Ça, c'est un effet de l'héritage du quaternaire. C'est-à-dire que pendant la période quaternaire, il y a eu des périodes très froides. Ces périodes très froides ont permis le développement de grands glaciers. Ce sont ceux qui sont représentés en gris ici, aussi bien sur l'Amérique du Nord que sur la partie orientale du continent eurasiatique. Mais pour qu'il y ait de la glace, il faut qu'il fasse froid, mais il faut aussi qu'il y ait des précipitations. S'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace, de glacier. Et donc, en effet, dans la partie orientale de la Sibérie, c'était le cas également en Alaska, il faisait froid. Mais il n'y avait pas de neige. En tout cas, il n'y avait pas suffisamment de neige pour que les glaciers puissent se développer à l'image de ceux qui se sont mis en place sur les autres secteurs. Et donc, le froid a pénétré en profondeur donc, dans les terrains jusqu'à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres, comme je le disais. Alors, associé à ce permafrost, on a des formes particulières. Vous avez ici un exemple de coin de glace. Vous avez ici un personnage qui donne l'échelle. Donc, ce sont des coins de glace qui se sont développés pendant des milliers d'années et qui donc donnent des terrains assez originaux donc quand on est dans l'Arctique. Ce sont par exemple ici ces réseaux de polygones de forme de gel, très géométriques comme vous le voyez. Et vous avez ici la coupe en quelque sorte avec les coins de glace qui expliquent donc ce réseau très géométrique caractéristique de cette région arctique à permafrost. Un autre exemple sont ces énormes collines ici à 50 mètres de haut qu'on appelle des pingos. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est tout simplement une accumulation progressive de glace sous les terrains qui finalement gonfle et déforme les terrains au point que l'on a ces collines qui, en quelque sorte, apparaissent à la surface ici du sol. Ici, on est dans le delta du Mackenzie au Canada. Vous avez ici une coupe dans un pingo de plus petite dimension. Vous voyez que c'est vraiment une masse de glace tout à fait considérable avec juste la surface ici du sol qui a été, en quelque sorte, soulevée, déformée par la formation donc de ce pingo. Alors en montagne, on a des formes caractéristiques, quelques formes caractéristiques. La plus caractéristique du permafrost, c'est le glacier rocheux. Vous avez ici un bel exemple de glacier rocheux dans les montagnes du Colorado, aux États-Unis. De quoi s'agit-il ? Ben, c'est un tas de cailloux, en fait, qui contient de la glace dans les interstices, éventuellement quelques strates de glace. Et cette glace permet un lent déplacement de ce tas de cailloux. Un peu comme de la lave, d'ailleurs, ça ressemble un peu à une coulée de lave, en quelque sorte. Sauf que là, c'est très très lent. Ce n'est pas une coulée de lave qui se met en place en quelque sorte en quelques heures. C'est une coulée qui va se mettre, une coulée de pierre et de glace, qui va se mettre en place pendant plusieurs milliers d'années. Vous avez ici deux cartes qui présentent dans un exemple des Alpes suisses. D'un côté, la vitesse de déplacement. Chacun des vecteurs ici représente un déplacement de 10 cm par an. Donc vous le voyez, les déplacements sont de quelques dizaines de centimètres par an au maximum. Et puis sur la carte de droite, eh bien, chacun des plus gros des points ici représente un temps d'un millénaire. Et donc vous avez un déplacement de la partie amont en direction de la partie aval qui prend 4, 5, 6 000 ans pour que les débris qui étaient accumulés à l'amont se retrouvent au front du glacier rocheux. Donc le glacier rocheux, c'est un objet géomorphologique en quelque sorte qui a une grande expérience de vie. Il vit pendant plusieurs milliers d'années. Autre forme du permafrost en montagne, le permafrost que l'on va trouver dans les parois. Ici, vous avez une vue cavalière du Cervin, entre la Suisse et l'Italie. Ici, la distribution donc, du permafrost. Avec les couleurs, vous le voyez, le Cervin est caractérisé par la présence massive de permafrost. Et si l'on fait une coupe, eh bien, voilà ce que cela donne. Avec ici le trait noir qui est l'isotherme 0 degré. Tout ce qui est au-dessus est à température négative, tout ce qui est en dessous à température positive. Et donc si je regarde un peu l'épaisseur ici du permafrost, ben, il y a plus de 1000 mètres d'épaisseur de permafrost, avec des températures qui vont de moins 1 degré à moins 10 degrés en exposition nord. Bien sûr, en exposition sud, la température est un peu plus élevée, même si l'on est toujours dans le permafrost. Alors ce permafrost, il se dégrade. Il se dégrade actuellement, que ce soit à haute latitude ou que ce soit en montagne, du fait, bien entendu, du réchauffement climatique. Alors si on regarde un petit peu ce que donne ce réchauffement climatique depuis un siècle, c'est la carte qui est ici projetée, ben vous le voyez, on a des valeurs de température qui augmentent d'autant plus que l'on remonte en latitude. Vous avez des températures ici qui sont de 1,5 degré, 2 degrés supérieures à ce qu'elles étaient il y a un siècle, et même ici vous avez des températures qui sont supérieures de 3 degrés à ce qu'elles étaient il y a un siècle. Donc on a une accélération en fonction de la latitude de ce réchauffement qui par ailleurs caractérise quasiment toute la planète, à l'exception, vous le voyez, de ce petit patch ici dans l'Atlantique Nord. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a un refroidissement, comme vous le voyez. Alors cette évolution de la température à la hausse, elle se traduit par la dégradation du permafrost. La bande qui est en rouge, là, c'est le secteur qui, il y a un siècle, présentait du permafrost et qui, aujourd'hui, n'en présente plus. Donc on a toujours du permafrost qui est plus ou moins présent là où on est en blanc, mais là où on est en rouge, c'est fini, il n'y en a plus. Quand on mesure la température dans le sol, vous avez ici différentes stations de mesure réparties dans l'Arctique, eh bien, qu'est-ce que l'on observe sur les 40 dernières années ou les 30 dernières années ici ? Eh bien, on observe une remontée des températures. Vous voyez par exemple que dans les années 80, pour la station de West Dock, on avait une température de moins 10 degrés. Et puis aujourd'hui, c'était même il y a plus de 10 ans, on a une température de moins 8 degrés. Donc on est passé de moins 10 à moins 8. Ça reste du permafrost, mais ça se dégrade, il se réchauffe. Dans certains cas, ici la station IA1, on était à moins 1, et là maintenant on est à plus 0,5. Encore une fois, maintenant c'est 2010. Donc le permafrost a ici disparu. Donc la dégradation du permafrost, c'est soit son réchauffement, soit son dégel, sa disparition. On observe la même chose sur le plateau tibétain, ici sur une période plus courte, mais vous avez la même tendance au réchauffement du permafrost. À l'échelle globale, quand on prend l'ensemble des régions qui sont caractérisées par le permafrost, que ce soit à haute latitude, en Arctique par exemple, ou que ce soit en montagne, dans les Alpes par exemple, on a une augmentation en 10 ans, entre 2007 et 2016, une augmentation de près de 0,3 degrés de la température du permafrost. Alors quels sont les effets de cette augmentation de la température, voire même du dégel du permafrost, c'est-à-dire de la dégradation ? Eh bien, les effets sont entre autres une instabilité des infrastructures. Vous avez ici deux petites cabanes en Alaska, ben, vous le voyez, elles sont de guingois. Elles n'ont pas été construites de guingois, mais elles le sont devenues du fait des modifications dans le sol, en particulier la fusion de la glace. Ici, on est à Fairbanks, la deuxième ville de l'Alaska. Vous avez le personnel municipal qui se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce trou ? Vous voyez la glace ici ? Tout simplement, on a un effondrement de la chaussée qui résulte donc de cette fusion de la glace qui était contenue dans les terrains. Et dans certains cas, c'est les fondations même des bâtiments, ici en Russie, qui sont affectées avec des écroulements, comme vous le voyez. Cette dégradation du permafrost, elle a également un effet en termes d'émissions de méthane. Vous en avez probablement entendu parler parce que c'est aujourd'hui un effet qui est relativement médiatisé. De quoi s'agit-il ? Le réchauffement donc des terrains en haute latitude en particulier se traduit par une dégradation des matières organiques qui sont contenues dans ces terrains, matières organiques qui étaient gelées, elles dégèlent, elles pourrissent, et donc il y a une émanation de méthane, de gaz carbonique, qui se produit. Et naturellement, ce méthane, ce carbone qui est relâché en direction de l'atmosphère, eh bien, il renforce l'effet de serre additionnel qui est en cours du fait du réchauffement climatique dont on parlait tout à l'heure, le réchauffement climatique dont on parlait tout à l'heure. Et naturellement, il va dégrader davantage ce réchauffement climatique les terrains qui vont à leur tour livrer davantage de gaz à effet de serre additionnel. C'est la raison pour laquelle les auteurs de ce document ont parlé de la bombe du pergélisol. On a un phénomène de rétroaction positive avec un emballement, en quelque sorte, du réchauffement climatique lié à cette émission donc de méthane. Malheureusement, la dégradation prévisible du permafrost va se poursuivre pendant le XXIe siècle. Vous avez ici une carte qui prévoit l'état de la température dans ces terrains affectés par le permafrost à la fin du siècle. Vous voyez en particulier la bande en marron foncé ici. Eh bien, c'est le secteur où le permafrost aura disparu. Et puis dans les autres secteurs, le permafrost sera toujours présent, mais il sera plus chaud, ce sera réchauffé. La température sera moins négative qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si l'on regarde ce que cela donne en termes de superficie affectée par le permafrost à la fin du XXIe siècle, eh bien vous le voyez avec le scénario le plus optimiste, celui qui malheureusement n'est pas du tout en cours actuellement, eh bien on aura perdu 30% du permafrost à la fin du XXIe siècle. Avec le scénario le plus pessimiste, malheureusement celui qui est actuellement en cours, eh bien c'est 75% de la superficie du permafrost qui aura disparu donc à la fin du XXIe siècle. Alors, quels sont les effets de la dégradation du permafrost en montagne, cette fois-ci, et en particulier pour les glaciers rocheux? Ici, une vue d'un de ces glaciers rocheux au-dessus d'Aussois. Eh bien, avec l'élévation de la température, on a une accélération de l'écoulement des glaciers rocheux, du mouvement des glaciers rocheux. Alors certes, ce mouvement est lent, mais si l'on observe les données qui sont ici rapportées dans le graphique, on avait des vitesses qui étaient de l'ordre de quelques dizaines de centimètres par an, comme je le disais tout à l'heure, jusque dans les années 80-90. Puis depuis, eh bien, on est passé à des vitesses de 1, 2, voire parfois 3 mètres par an. Alors ça reste évidemment un écoulement très lent, mais c'est une vitesse qui est multipliée par 10, ce qui est évidemment tout à fait considérable, et ceci est directement en lien avec l'élévation de la température de l'air que vous voyez reproduite sur le graphique du haut. Parfois, cette accélération est tout à fait remarquable. C'est le cas, alors ça saute un peu l'image ici. Elle est tout à fait remarquable dans certains secteurs qui sont particulièrement déstabilisés. Et vous voyez ici sur ces images qui sont incomplètes, puisque ça saute, mais sur une année, vous voyez le secteur à l'aval qui accélère très très rapidement et qui livre des sédiments, des blocs, du matériel, des débris donc dans le bassin torrentiel qui se trouve en contrebas, qui à son tour fournit donc des laves torrentielles qui menacent donc le village dans cette vallée du Valais qui se trouve en contrebas. Dans certains cas, le front même des glaciers rocheux peut se détacher et partir en grand glissement. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas le front à sa place, en quelque sorte, du glacier rocheux. C'est le front qui s'est détaché de la partie du haut, ici, et qui a dévalé donc dans cette vallée du Bail en contrebas. Vous avez ici une carte qui vous montre en blanc ce qu'est le glacier rocheux. Ici, la niche d'arrachement, en quelque sorte, et toute la masse qui a glissé, et puis le front qui, aujourd'hui, se trouve là, et qui n'est évidemment pas à sa place. Cette dégradation du permafrost, elle a des effets sur la stabilité des infrastructures, en particulier dans les stations de sport d'hiver, entre autres dans les Alpes françaises. Vous avez ici une carte qui mêle à la fois la distribution du permafrost et également, donc, chacun des points de couleur représente une station. Et vous avez, pour les 10 principales stations qui sont ici listées, le pourcentage, en quelque sorte, d'infrastructures qui sont menacées d'instabilité par la dégradation du permafrost. Alors, le diamètre des ronds est proportionnel au nombre d'infrastructures. Donc, par exemple, à Val d'Isère, on a pratiquement 150 infrastructures qui sont en place, puisque c'est évidemment un très grand domaine skiable. On en a moins à Courchevel, qui sont menacées. Mais comme vous le voyez, ce sont quand même un assez grand nombre d'infrastructures qui peuvent l'être, avec en jaune ici donc des secteurs qui sont relativement stables. En revanche, dès qu'on est dans les marrons et les rouges, on est dans des secteurs qui sont plus, enfin des infrastructures qui sont plutôt menacées. À l'image du grand pylône que vous voyez ici dans le secteur de Tignes, qui a été déstabilisé, qui s'est déplacé vers l'aval et qui a basculé, ce qui évidemment a entraîné des travaux tout à fait considérables de remise en place et surtout de consolidation des fondations, à moins de évidemment annuler complètement le système du télésiège qui est supporté par ce pylône. Cette dégradation du permafrost, elle affecte également le permafrost dans les parois en altitude. En particulier, ici, vous avez une photographie à l'Aiguille du Midi, qui est un secteur sur lequel on travaille beaucoup parce qu'il est évidemment facilement accessible. Je vais y revenir. Alors, si l'on regarde l'évolution des températures dans les parois, aussi bien dans les Alpes qu'en Norvège, vous avez ici des mesures faites à 10 mètres de profondeur ou à 20 mètres de profondeur. Ben, vous le voyez, je ne vais pas détailler, mais dans tous les cas, on a une remontée donc, des températures à l'image de ce que j'ai présenté tout à l'heure. À 10 mètres, on a des fluctuations qui sont saisonnières. En fonction de l'été ou de l'hiver, et bien évidemment, la courbe présente donc cette allure. En revanche, à 20 mètres de profondeur, ces fluctuations saisonnières ne sont plus enregistrées. Alors, à l'Aiguille du Midi, pardon, on a réalisé donc depuis une quinzaine d'années des mesures. On réalise depuis une quinzaine d'années des mesures. On a d'abord installé des capteurs de température en surface et puis en profondeur, ici jusqu'à 10 mètres de profondeur, avec 3 expositions différentes qui nous permettent de relever la température en continu. Vous avez ici 5 années de mesures, par exemple, en face est. Alors, qu'est-ce que l'on observe du point de vue des mesures? Vous avez la température qui est en ordonnée et puis le temps qui est en abscisse. Ben, on voit qu'en surface, on a des fluctuations entre moins 15 degrés l'hiver et plus 10, plus 12 degrés l'été. En gros, les fluctuations de la température de l'air, rien de tout à fait étonnant. En profondeur, ici la courbe qui oscille de l'ordre de 1 degré, eh bien, on a une atténuation, bien entendu, de ces variations, puisqu'on est à 10 mètres de profondeur. Notez que lorsque l'on a un maximum de température au mois de juillet en surface, le maximum de température en profondeur est au mois de décembre. Et inversement, lorsque l'on a un minimum de température donc pendant l'hiver, en gros en janvier, eh bien le minimum de température est enregistré plutôt au mois de juin. On a un décalage de 5 à 6 mois, le temps que soit la chaleur, soit le froid pénètre donc jusqu'à 10 mètres de profondeur. Si l'on regarde l'évolution sur une dizaine d'années, ici avec les différents forages, eh bien, qu'est-ce que l'on observe ? Au-delà des fluctuations donc, annuelles, qui résultent bien entendu de la saisonnalité, eh bien, on a une augmentation de la température qui peut même atteindre, vous le voyez, 1 degré sur la décennie. Tout à l'heure, je vous le disais, à l'échelle mondiale, pour le permafrost, l'augmentation de température sur une décennie, c'est 0,3 degré. Eh bien, en haute montagne, sur les parois d'altitude comme celle de l'Aiguille du Midi, on est ici à 3800 mètres d'altitude, hein. Eh bien, l'évolution de la température est de l'ordre, vous le voyez, de 0,6 à 1 degré selon l'exposition. On modélise également l'évolution de la température dans le passé et dans le futur. Donc vous avez ici toujours pour l'Aiguille du Midi ce qu'était la distribution du permafrost à la fin du petit âge glaciaire au milieu du 19e siècle. Ici en 2015, donc il y a peu de temps, et puis là à la fin du 21e siècle. À la fin du petit âge glaciaire, l'Aiguille du Midi était bien froide. Elle reste assez froide aujourd'hui, même si en face sud, vous le voyez avec les couleurs un peu plus chaudes, on commence à avoir un réchauffement sensible. À la fin du XXIe siècle, elle ne restera froide qu'en profondeur et en face nord. L'essentiel donc, du secteur sud, lui, sera à température positive. Donc des modifications de conditions de stabilité éventuelles à prendre en considération par rapport, par exemple, aux infrastructures. Cette dégradation du permafrost de parois, là, c'est des effets en termes d'instabilité des parois elles-mêmes. Ici, la face ouest des Drues, sur laquelle s'est produit en 2005 l'écroulement du pilier Bonatti. On a reconstitué ce qu'ont été les écroulements qui ont précédé cet écroulement de 2005. Et on les a mis sur un graphique ici. Vous avez donc le temps qui est en abscisse. Vous avez l'altitude à laquelle s'est détachée la masse écroulée qui est en ordonnée. Et puis la taille des rectangles donne une idée du volume qui s'est écroulé. Donc ici, c'est 300 000 m3 pour l'écroulement de 2005. Ce que l'on constate, c'est qu'on a des écroulements qui se produisent de plus en plus nombreux, de plus en plus grands et de plus en plus hauts au fur et à mesure que l'on se rapproche de la période actuelle. Et si l'on met cette distribution des écroulements en rapport avec l'élévation, l'évolution de la température, bien vous le voyez, on a une élévation de la température à la fin des années 40 qui se traduit par un premier écroulement. Ensuite, c'est relativement stable. Et puis, à nouveau, à la fin des années 80, la température s'élève, comme on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Et on a à ce moment-là donc des écroulements qui deviennent plus nombreux et de plus grande dimension. Lorsque l'on fait ce même travail sur le secteur des aiguilles de Chamonix, le versant nord qui domine Chamonix, et que l'on associe l'ensemble des écroulements recensés sur les Drues et sur les aiguilles de Chamonix, c'est le graphique qui figure en contrebas. On voit que dans la décennie 1940, on a eu 5 écroulements seulement qui se sont produits, et puis ensuite une période relativement calme, et à partir des années 90, vous le voyez, un plus grand nombre d'écroulements. Pour la dernière période, c'est même seulement 5 années, donc entre 2011 et 2015, qui est ici représenté. Donc, si l'on prend l'ensemble des écroulements qui ont affecté ces deux secteurs qui sont bien couverts par la documentation photographique depuis la fin du petit âge glaciaire, c'est-à-dire depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, eh bien, plus de 80% des écroulements se sont produits depuis 25 ans dans ces deux secteurs. Lorsque l'on recense l'ensemble des écroulements qui se produisent chaque année à l'aide d'un réseau d'observateurs dans le massif du Mont-Blanc, ce sont tous les points rouges que vous voyez ici et que l'on compare en quelque sorte la distribution de ces écroulements avec la distribution de la température de surface dans le massif du Mont-Blanc, qui est la légende en couleur, eh bien, l'on peut faire apparaître un certain nombre d'éléments. Donc, je vais commenter donc ce graphique qui est relativement simple à comprendre une fois que je l'aurai expliqué. Vous avez une gamme de température qui est indiquée en abscisse. Si je prends un bâton gris qui représente un pourcentage de superficie de parois qui est indiqué en ordonnée, eh bien j'ai de l'ordre de 10% des parois du massif du Mont-Blanc qui ont une température comprise entre 0 et moins 1 degré. On devrait donc s'attendre à avoir de l'ordre de 10% des écroulements qui se produisent dans ces 10% de parois si l'on avait quelque chose qui était proportionnel à la superficie des parois. Or, vous le voyez, eh bien, entre 0 et 1 degré, on a de l'ordre de 15% des écroulements qui s'y produisent. Alors, si l'on prend une gamme un peu plus large, 19% des parois ont une température comprise entre moins 3 et moins 1 degré, eh bien, on observe 38% des écroulements que l'on a recensés donc, depuis 2007. si l'on prend une paroi dont la température est comprise entre 0 et moins 4 degrés, cela représente un peu plus d'un tiers des parois, 36%, et ce sont un peu plus de deux tiers des écroulements qui s'y sont produits. Et si l'on prend l'ensemble des parois dont la température est négative, c'est-à-dire 50% des parois, eh bien on a à ce moment-là près de 83% des écroulements qui s'y produisent. Donc on a une proportion nettement plus élevée d'écroulements qui se produisent que de proportion de parois correspondantes, ce qui évidemment met en relation ces écroulements avec le permafrost qui caractérise ces parois. Alors les écroulements dont j'ai parlé jusqu'à maintenant sont plutôt de petits volumes, même si pour le cas des Dru c'était 300 000 m3, ça commence déjà à faire, mais on a des écroulements de plus grands volumes qui se sont produits, y compris récemment dans le massif du Mont-Blanc par exemple, ils s'en produisent ailleurs également dans le monde bien sûr. Vous avez ici une carte qui vous représente pour l'essentiel une vue du versant italien du massif du Mont-Blanc, en gros Courmayeur serait ici, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Et on a donc de grands écroulements, à l'image de la Brême en 1997, 2 millions de mètres cubes qui se sont détachés, qui ont parcouru l'ensemble du glacier à cette occasion. Donc ce sont là des volumes qui sont 10 fois supérieurs aux plus grands volumes que l'on enregistre sur les éléments que j'ai présentés précédemment. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces grands écroulements rocheux, qui affectent donc des volumes très très élevés, sont en rapport avec également une dégradation du permafrost, puisque, bon, 1997, on a un écroulement qui s'est produit en 1920, on est dans une période où, effectivement, on a des températures qui, par rapport à petit âge glaciaire, se sont élevées. En revanche, quand on observe le secteur qui est ici en jaune, bien on voit que c'est un écroulement qui s'est produit pendant le petit âge glaciaire, plus précisément 1717, et là, c'était 10 millions de mètres cubes. Donc on voit que ce n'est pas forcément lié à une température très élevée, comme c'est le cas de ce que l'on observe aujourd'hui. On a d'autres écroulements qui sont produits pendant des périodes plus chaudes, d'autres pendant des périodes qui pouvaient éventuellement être froides, plus anciennes, il y a 1000, 2000 ans éventuellement. Donc on a des écroulements qui peuvent se produire pendant des périodes que l'on peut considérer aujourd'hui comme froides, mais qui se situent dans une période générale depuis 12 000 ans, que l'on appelle l'Holocène, qui elle est plutôt chaude par rapport aux périodes où les glaciers arrivaient par exemple jusqu'à Lyon et recouvraient Chambéry avec 1000 mètres de glace. Donc on a des effets sur le long terme de la dégradation du permafrost qui pour le moment sont mal compris, mais qui peuvent être aussi à l'origine éventuellement de ces grands écroulements. La question en tout cas est en étude. Cette dégradation du permafrost, elle entraîne également une déstabilisation des glaciers froids, c'est-à-dire les glaciers qui sont collés au substratum rocheux sur lequel ils s'écoulent, au lit rocheux. C'est le cas par exemple dans les prochaines décennies du glacier de Tacona, au-dessus de Chamonix, au-dessus des Ouches. Vous avez ici un glacier dont la base est actuellement aux alentours de moins 2 degrés. C'est un glacier qui est assez connu parce qu'il est parcouru par de très grandes avalanches certains hivers, et c'est la raison pour laquelle il a fait l'objet de construction d'un paravalanche qui est le plus grand paravalanche des Alpes et probablement du monde, avec une hauteur ici de plus de 25 mètres, qui est prévu pour contenir des avalanches de l'ordre de 1,5 million de mètres cubes. Le problème, c'est que la glace qui domine en quelque sorte ce paravalanche, eh bien, elle se réchauffe. Et vous avez ici une simulation qui a été réalisée par nos collègues grenoblois de la distribution de la température à la base du glacier. Et toute la partie qui est en hachurée ici, qui correspond au secteur qui est là, eh bien, c'est la partie qui sera, à la fin du XXIe siècle, à température positive. C'est-à-dire que dessous la glace, à l'interface avec le lit rocheux, il y aura de l'eau. Et évidemment, toute cette partie-là sera en mesure de se déstabiliser et de dévaler la pente qui se trouve en contrebas, déclenchant éventuellement des avalanches de plus grand volume que celles auxquelles on est habitué actuellement.
Ben, merci pour cette présentation extrêmement concise. Vous avez certainement des questions à poser à Philippe Deligne. Alors, qui veut se lancer pour la première question? Je fais passer le micro.
Merci. Quand vous avez montré la diapo avec le massif du Sevin, vous avez parlé des températures qui étaient plus froides, j'ai l'impression, sur la partie supérieure. Et après, j'ai l'impression qu'elles étaient moins froide, c'est ça? Pour moi, ce n'était pas logique.
Alors, je vais revenir sur l'image. Donc, la température est plus basse ou plus haute, mais elle n'est pas plus froide ou plus chaude.
Oui,
mais ça, c'est
haute.
Mon côté enseignant. Hein.
La température semblait plus basse en altitude, et elle devenait moins...
Je vous chicanais, là.
Oui, non, vous avez raison, sinon voilà. C'est pas très clair.
Donc, c'est peut-être le fait qu'ici... on a une température qui reste positive alors qu'ici elle est négative, c'est ça votre...
Oui, je pensais que plus on descendait, plus la température s'abaissait.
Alors donc, en fait, plus on descend et plus la température s'élève. Pourquoi? Parce qu'on a le flux géothermique.
C'est-à-dire que, vous le savez, le cœur de la Terre est extrêmement chaud. Et donc, on a de la chaleur qui, en quelque sorte, remonte sous nos pieds. Et on en fait d'ailleurs un usage, y compris en termes de production, donc d'énergie. Donc, ici, la température est relativement élevée. Et plus on s'élève, plus on s'éloigne, en quelque sorte, du cœur de la Terre, du centre de la Terre, et plus la température diminue. Donc, on passe d'une température qui est de l'ordre de 10 degrés ici, à 9, 8, 7, etc., jusqu'à une température, ici, le trait noir, de 0 degré. Et au fur et à mesure, ensuite, que l'on s'élève au-dessus de cet isotherme 0 degré, là, la température donc, continue à diminuer jusqu'à moins 10. En revanche, je n'ai pas développé là-dessus, mais on a un net contraste entre ce que l'on observe sur le versant nord et sur le versant sud. Je l'ai dit tout à l'heure, le versant nord est très froid, le versant sud est un peu moins froid, mais même si l'on regarde à l'altitude ici de 3500 mètres d'altitude, on a une température qui est nettement négative au nord, et vous le voyez, la température est ici faiblement positive au sud. C'est là, évidemment, un des éléments tout à fait majeurs de la distribution du permafrost en montagne, c'est qu'on a un contraste très fort entre les versants. C'est ce que vous avez par ailleurs vous-même observé en déplaçant, etc. Quand on est en Ubac ou quand on est en Adret dans les vallées, ben évidemment, on ne ressent pas du tout la température de la même manière. Eh bien, c'est la même chose pour le permafrost. Le permafrost donc, va se retrouver très bas en altitude lorsque l'on est en exposition nord. Vous le voyez ici, il descend jusqu'en dessous de 3000 mètres d'altitude. En revanche, il va falloir monter au-dessus de 3500 mètres d'altitude pour trouver du permafrost dans les parois rocheuses.
Bon, je sais que ce n'est pas votre domaine, mais enfin, on en parle pas mal actuellement. Donc, est-ce que l'émergence éventuelle de certains virus complètement inconnus qui pouvaient exister il y a 10 millions d'années et qui pourraient revenir en surface, est-ce que c'est une possibilité ?
Oui, alors, bon, c'est pas du tout mon domaine, comme vous l'avez dit, effectivement, mais on peut imaginer que des virus, des bactéries dont on n'a pas connaissance actuellement, sont actuellement prisonnières, en quelque sorte, du permafrost aux hautes latitudes et vont être libérées, donc, à un moment donné, lorsque ce permafrost aura continué à se dégrader. Pour autant, est-ce que ces virus seront en mesure de nous affecter, comme c'est le cas du virus actuel ? Je ne saurais vous le dire. Il faut plus s'inquiéter pour le moment de l'effet qu'a la dégradation du permafrost aux hautes latitudes sur le réchauffement climatique, qui l'accélère, plutôt que sur la situation virologique, je dirais, dont on est effectivement aujourd'hui fortement affecté, mais pour des raisons indépendantes de la dégradation du permafrost.
Merci. Et du coup, en matière de prévention, comment est organisée la surveillance ? Est-ce que c'est une tâche incommensurable et que du coup, on ne peut même pas surveiller ? Ou qu'est-ce qui est organisé ?
Alors, pendant longtemps, effectivement, les risques qui sont liés donc à la cryosphère et en particulier donc à la présence du permafrost n'ont pas été pris en considération, en particulier en France. Parce que, contrairement aux hautes latitudes, l'Alaska, le Canada, la Sibérie russe, par exemple, où les aménageurs se sont confrontés à la situation donc, de ce permafrost depuis longtemps. Pour ce qui nous concernait, je dis qu'on dit nous, c'est la France, les Alpes de manière générale, c'était quelque chose de tout à fait marginal et on ignorait même il y a encore 50 ans qu'il y avait du permafrost dans les Alpes, pour tout dire, quoi. Alors, l'usage qui a été développé de ces milieux de montagne et de haute montagne depuis quelques décennies, le développement des stations de ski par exemple, mais également la pratique de l'alpinisme, etc., fait qu'aujourd'hui, c'est une question qui n'intéresse pas simplement, qui n'inquiète pas ou qui n'intéresse pas simplement les chercheurs, mais qui intéresse, y compris donc les autorités politico-administratives. Et par exemple, le ministère de l'Environnement, depuis 2015, a commencé à prendre conscience du fait qu'il fallait commencer à réfléchir sur comment, en quelque sorte, mieux comprendre ce que sont ces risques liés, par exemple, à la dégradation du permafrost, mais c'est également les risques liés à l'évolution des glaciers, pour pouvoir émettre un certain nombre de recommandations, de règlements, etc. Et donc, depuis 2015, il y a un échange qui se fait, qui s'est accéléré depuis 2 ans entre le ministère et les chercheurs sur ces terrains-là, et qui font donc l'objet donc de recherches, de travaux, d'échanges, de colloques, de publications, etc. Donc il commence à y avoir une prise en compte, effectivement, de cette situation-là. Après, au niveau de certains acteurs qui sont directement concernés par les effets de la dégradation du permafrost, j'ai parlé des stations de ski. On a des responsables de stations qui sont tout à fait conscients du fait qu'il y a un vrai souci avec le permafrost pour un certain nombre de leurs infrastructures, et qui donc échangent également avec les chercheurs apportent des informations sur l'évolution de leurs infrastructures et attendent de la part des chercheurs des études qui permettent éventuellement de proposer des aménagements permettant de limiter donc les effets de cette dégradation sur leurs infrastructures. Ce n'est pas vrai de tous les gestionnaires de domaines skiables. Hein. Certains sont très ouverts sur ces questions-là. D'autres, au contraire, semble-t-il, craignent que la publicité qui pourrait être faite autour de ces questions-là nuise en quelque sorte à leur image de marque et ont plutôt tendance à faire comme si les choses devaient être réglées sans que l'on puisse, en quelque sorte, poser les problèmes au fond. Mais globalement, il y a une prise de conscience qui se fait, à la fois donc des gestionnaires de ces domaines skiables, mais également donc des gestionnaires des routes, par exemple, hein, sur la menace que représentent les déstabilisations de terrain donc en milieu de haute montagne, que ce soit sous forme d'écroulement dans certains secteurs ou sous forme de modification de la vitesse d'écoulement des terrains, et en particulier des glaciers rocheux. Et donc, de plus en plus, il y a une sensibilité sur ces questions-là. En termes de surveillance, il n'y a rien qui, pour le moment, n'est réellement mis en place, sauf dans quelques secteurs très particuliers, comme par exemple le secteur de Tacona, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour le glacier de Tacona, sur lequel donc des recherches qui ont également un effet en termes éventuellement de prévention des avalanches qui pourraient être déclenchées par les avalanches de glace se détachant actuellement du front du glacier de Tacona. Donc peuvent être combinés. À la fois, on a besoin de mieux comprendre, et donc nos collègues glaciologues de Grenoble donc, travaillent dans ce sens-là, et par ailleurs, la nécessité de prévoir la possibilité que le détachement d'une partie, aujourd'hui actuellement encore réduite, du front du glacier, déclenche une avalanche de neige à un moment où le manteau nival est considéré comme stable et donc on n'a pas d'alerte avalanche, est un élément évidemment important à prendre en considération par rapport aux populations et aux biens qui se trouvent en contrebas, serait-ce que donc les habitants des Ouches et de Chamonix qui sont juste sur la limite, ou bien sûr les axes de circulation comme la route d'accès au tunnel du Mont-Blanc. Quoi. Voilà.
Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une étude de sciences participatives, un programme de sciences participatives justement pour recenser tous les événements, petits ou grands éboulements qui peuvent survenir à l'échelle des Alpes?
Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure rapidement d'un réseau d'observateurs. Hein, donc depuis 2007, donc un réseau d'observateurs est en place dans le massif du Mont-Blanc pour recenser l'ensemble des écroulements qui s'y produisent. Alors quand je dis dans l'ensemble du massif du Mont-Blanc, c'est plus précisément sur l'ensemble du versant chamoniard, donc le versant Chamonix, les Ouches, mais également le versant Courmayeur du côté italien. Le versant donc Saint-Gervais n'est pas pris en considération pour des questions de mise en place du réseau d'observateurs, hein, tout simplement. Et ce réseau d'observateurs s'appuie sur qui ? Il s'appuie sur les guides de haute montagne, qui évidemment fréquentent de manière très active le massif. Il s'appuie sur les gardiens de refuge, et puis il s'appuie également sur les pratiquants. Et donc, à destination de ces pratiquants, régulièrement sur les forums, donc il y a à la fois des appels à témoignages et en même temps donc restitution des études que nous conduisons pour les inciter donc à nous communiquer ces informations concernant ces écroulements. Donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement signaler qu'ils ont été directement témoins d'un écroulement. Et aujourd'hui, vous le savez, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, sommes munis de quoi filmer, par exemple, ou de quoi prendre le point exact là où on se trouve. Mais également, éventuellement, signaler le fait qu'ils sont passés dans telle voie une semaine avant et que, passant une semaine après, ils constatent qu'il s'est passé quelque chose dans cette voie, et en particulier, donc, une partie de la voie s'est écroulée. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de date exacte, mais on sait que dans la semaine, il s'est passé quelque chose, on peut rechercher un appel à témoignage, etc. Et ça permet, comme ça, de recenser, chaque été, un grand nombre d'écroulements. Alors, le nombre d'écroulements est fonction de la manière dont l'été s'est passé. L'été dernier, par exemple, il y a eu peu d'écroulements, parce que, comme vous en souvenez, on a eu un été pourri. Donc, du point de vue de la stabilité des versants, c'était plutôt meilleur. Donc, on a eu une quarantaine, cinquantaine d'écroulements seulement. Et puis, il y a des années, c'était le cas de l'année précédente, des étés, puisque c'est surtout l'été que les écroulements se produisent, où on arrive à près de 200 écroulements pendant l'ensemble de l'été dans le massif du Mont-Blanc. On a ainsi une base de données, aujourd'hui, de plus de 1300 écroulements depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, qui nous permettent justement de travailler dans la direction de ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc oui, c'est de la science participative, hein, pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Yves. Et ce travail est actuellement développé également dans d'autres secteurs. Dans le massif des Écrins, par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle Refuge Sentinelle, où on associe donc à la fois les gardiens de refuge, mais également les accompagnateurs moyenne montagne ou les guides, pour avoir encore une fois des retours sur ce qui se produit en termes de dynamique des versants, que ce soit les écroulements ou autres, dans le massif et également une restitution qui se fait des résultats de ces travaux en direction donc de ces gardiens de refuge ou de ces accompagnateurs de moyenne montagne ou de ces guides qui ainsi peuvent en informer donc leurs clients, pratiquants de la montagne. Quoi.
Pour rester sur la question de la surveillance et du massif du Mont Blanc, est-ce que vous avez des informations sur le glacier de Tête Rousse et le glacier de Trien, voilà, qui fondent énormément, quoi.
Oui, alors le glacier de Trien, oui, c'était bien le glacier de Trien dont vous parliez en deuxième. Oui. Le glacier de Trien, donc, est sur le versant suisse du massif du Mont Blanc, qui a beaucoup reculé ces dernières décennies, hein, depuis les années 80. C'est moins vrai du glacier de Tête Rousse, hein, qui est beaucoup plus stable, mais qui est situé beaucoup plus haut en altitude également. Alors sur le glacier de Trien, j'ai pas d'informations particulières. Peut-être vous faisiez référence à Trien par rapport à Tête Rousse parce qu'il y a eu une époque où il y en avait des vidanges régulières de poches d'eau du glacier de Trien, hein, les tines. Pour le glacier de Tête Rousse, je pense que vous faites allusion à ce qui s'est passé depuis 2010, c'est-à-dire le fait que nos collègues de Grenoble, glaciologues, donc ont découvert le fait qu'il y avait 55 000 mètres cubes d'eau dispersée sous forme un peu comme une éponge en quelque sorte à l'intérieur du glacier. Ce qui, évidemment, a inquiété, à juste titre, les autorités, renvoyant à ce qui s'était passé en 1892, et donc la vidange de Tête Rousse, qui, au mois de juillet 1892, a ravagé la vallée de Saint-Gervais et a causé plus de 180 victimes. Donc, effectivement, beaucoup de travaux ont été conduits dans les années qui ont suivi 2010 pour mieux comprendre ce qu'il en était en termes de distribution de ce volume d'eau à l'intérieur du massif et à l'intérieur du glacier, pardon. Et des raisons pour lesquelles, alors qu'on est dans un contexte climatique très différent de celui de 1892, eh bien, on pouvait avoir effectivement cette masse d'eau contenue ainsi dans le glacier. Puis par ailleurs, donc, des opérations de vidange ont été mises en œuvre à l'occasion. Et alors, par contre, dans plusieurs années de suite, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en termes de y a-t-il encore des poches d'eau résiduelles dans le glacier de Tête Rousse ? Toujours est-il qu'il est effectivement sous surveillance. Hein, c'est un des glaciers qui est le plus surveillé, si l'on veut. Mais là, on est dans un contexte qui est sans rapport direct avec le permafrost. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai pas du tout abordé cet aspect-là. Mais c'est un élément important. Et c'est un élément d'autant plus important que, contrairement à d'autres aléas liés donc au glacier, comme par exemple le détachement de fronts de glaciers suspendus, dont je parlais à propos de Tacona, eh bien, les poches d'eau intraglaciaires, par définition, ne se voient pas, justement. Et donc, un des axes sur lesquels travaillent nos collègues dans le cadre des échanges avec le ministère de l'Environnement, dont je parlais tout à l'heure pour la question des risques liés donc aux glaciers, au permafrost, de manière générale à la cryosphère, eh bien, est celle-ci, quoi. Donc, comment faire pour identifier les glaciers susceptibles de contenir des poches d'eau qui seraient éventuellement également susceptibles de se vidanger et créant donc les dégâts du même type que ceux qu'on a vus en 1892.
Est-ce qu'on a des données sur l'impact de la fonte ou le dégel du permafrost sur les activités touristiques, en particulier sur le nombre de victimes de la montagne ? Est-ce qu'on voit une augmentation et une causalité s'il y a une augmentation du nombre de victimes ?
Alors c'est toujours en montagne, c'est toujours difficile de déterminer. Enfin, c'est souvent difficile de déterminer quelles sont les causes d'accidents qui ont pu entraîner des victimes. Alors on a différents types d'aléas et donc de risques potentiels. Il y a les risques auxquels sont exposés les pratiquants de la haute montagne. Hein, donc on a des secteurs qui sont connus effectivement pour être particulièrement exposés à certains risques, en particulier à des risques de chute de pierres. C'est le cas du couloir du Goûter, le couloir qui permet d'accéder donc au refuge du Goûter, qui est un secteur affecté par le permafrost, mais dont l'activité gravitaire n'est pas forcément directement en lien avec la dégradation du permafrost, dans la mesure où c'est plutôt des blocs qui se détachent vraiment en surface, et donc dans le secteur qui est en gros la couche active. Donc on n'a plus de permafrost, le permafrost est plus en profondeur. Et donc, en gros, ça parpine parce qu'effectivement, la paroi est extrêmement fracturée et ne demande finalement qu'à livrer le matériel superficiel qui est prêt à descendre à l'occasion donc du dégel de la partie superficielle au cours de l'été, par exemple. Et donc, c'est un secteur, probablement, j'ai vu certains hocher la tête, donc c'est un secteur qui est connu pour être extrêmement accidentogène. où on a en moyenne hein, sur les trois dernières décennies, 3 morts par an. Hein. Donc certaines années, on n'a aucun mort, mais d'autres années, on est au-delà de 7 morts par an. Quoi. Et puis, beaucoup de blessés. Donc, voilà, c'est ce type de secteur, effectivement, qui est connu. Après, on a d'autres secteurs qui ont fait l'objet donc d'écroulements, mais qui ne sont pas des écroulements qui se répètent, disons, de manière aussi fréquente. Et donc, du coup, ben, voilà, c'est le risque, effectivement, que prend l'alpiniste en parcourant certaines voies. L'autre aspect, l'autre bout de l'échelle, ce sont les grands événements, en quelque sorte. Et là, on peut signaler... Eh bien, un événement qui s'est produit donc récemment, donc c'était au mois de, alors, j'ai plus la date en tête. J'allais dire février, mais bien sûr que oui, c'est peut-être février. Donc en tout cas à Chamoli, donc en Inde, où on a donc une paroi entière qui s'est détachée avec un glacier qui était à sa surface, mais le volume qui s'est détaché, c'était 25 millions de mètres cubes, hein, c'était tout à fait considérable. Pour donner un ordre de grandeur, le barrage du Mont-Cenis, que certains d'entre vous connaissent, en enrochement, c'est 15 millions de mètres cubes. Donc 25 millions de mètres cubes, vous voyez, c'est presque le double. Qui s'est donc, ce volume s'est détaché, a dévalé le versant jusque dans la vallée et a bloqué donc une vallée qui était donc affluente, qui donc a créé un lac. Et ensuite, donc les eaux se sont vidangées brutalement et on a eu donc une crue catastrophique qui a ravagé donc toute la vallée qui était en contrebas sur des dizaines de kilomètres, en détruisant les ouvrages hydroélectriques, ceux qui étaient en construction, ceux qui étaient déjà en service, et on a plus de 200 personnes qui ont disparu dans l'affaire, quoi. On a eu un événement un peu du même ordre qui s'est produit en 2002 dans le Caucase, partie nord du Caucase, du côté russe, donc avec l'écroulement de Kolka Karmadon. On a un écroulement, là encore, de l'ordre de 100 millions de mètres cubes qui s'est produit sur un glacier. Le glacier a été entièrement embarqué, pratiquement, raboté par l'écroulement. Et donc, on a une propagation donc, de la masse écroulée qui s'est faite sur 15 km de longueur, qui a été bloquée à une étroiture, une gorge, qui donc, a retenu l'essentiel de la masse, mais qui ensuite... Une partie de cette masse très fluidifiée, contenant beaucoup d'eau résultant de la fusion de la glace, s'est propagée ensuite sur 18 km supplémentaires. Donc vous voyez, ça fait plus de 30 km de propagation. Et donc, les populations qui étaient à 30 km de l'endroit où s'est produit l'événement, plus précisément même à 36 km, ont subi des dommages majeurs. Il y a eu 150 morts. C'était une belle journée. Il n'y a aucune raison de craindre une inondation, quoi que ce soit. Vous avez un énorme flux qui arrive d'un seul coup et qui ravage tout le village, quoi. Donc voilà, on a des événements de ce type-là, tout à fait catastrophiques, qui peuvent se produire et qui peuvent se produire dans les Alpes. Hein. On a des secteurs qui, je ne sais pas si on prend la face est du Mont Rose, celle du côté italien, pour ceux d'entre vous qui connaissent, le secteur de Macugnag, sur le glacier du Belvédère, c'est 2500 mètres de commandement. Bon, là, on a une instabilité dans la paroi qui est assez récurrente, on n'a jamais eu de grand volume jusqu'à maintenant. Si on a quelque chose de majeur qui se détache, on peut avoir des dégâts tout à fait considérables en contrebas, bien sûr. Hein. Bon, pour le moment, ça n'a pas été trop le cas, disons, dans les Alpes, même si peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. En 2017, on a eu l'écroulement du Pisangallo, donc dans la partie des Alpes suisses, la partie est des Alpes suisses, où on a 4 millions de mètres cubes qui se sont détachés et qui ont engendré donc un écroulement majeur. Donc là, on a eu 8 personnes qui ont été tuées, des randonneurs, des alpinistes. Et puis, on a eu ensuite toute une série de coulées boueuses qui ont envahi le village de Bondo qui se trouvait en contrebas et qui a détruit ou endommagé, c'est pas toujours détruit, 80 maisons. Quoi. Donc là, c'est un événement qui s'est produit donc à la fin du mois d'août 2017, tout à fait majeur. Quoi. C'est le plus gros écroulement récent qui se soit produit dans les Alpes avec 4 millions de mètres cubes, hein, ce qui est tout à fait considérable. Quoi.
Le mot pergélisol, est-ce que c'est synonyme de permafrost ?
Absolument. Donc c'est le terme francophone. Hein. Donc pergélisol, ça veut dire sol gelé en permanence. Permafrost, c'est sol gelé en permanence, mais en anglais. Pendant longtemps, on n'utilisait que le terme pergélisol en français, mais c'était dans une sphère assez réduite, hein. En gros la sphère académique. Donc moi, j'expliquais le pergélisol aux étudiants. Là, aujourd'hui, je leur explique le permafrost en leur disant qu'effectivement, le terme pergélisol est synonyme, parce qu'aujourd'hui, dans les médias, on ne parle plus de pergélisol, on parle que de permafrost pratiquement. Donc nos collègues suisses, nos collègues québécois défendent ardemment le terme pergélisol. Mais moi, depuis quelques années, j'ai baissé les bras. Donc, je continue à dire que les deux termes sont synonymes. Mais maintenant, je parle de permafrost parce que c'est plus simple pour la plupart des gens de comprendre de quoi il s'agit. Quoi. Même si, encore une fois, pour le moment, le terme permafrost est parfois mis à toutes les sauces, hein, parce qu'il y a eu un moment où quand des écroulements se produisaient, dans les médias, c'était le permafrost, quoi. Bon, on était à 1500 mètres d'altitude, ça n'a rien à voir avec le permafrost. Les écroulements du Granier de 2016 n'ont rien à voir avec le permafrost, par exemple, quoi. Mais bon, voilà. Des fois, est-ce le permafrost, point d'interrogation ? Non. On peut répondre tout de suite, non. Oui, on a une idée. Alors, du volume de méthane, je ne pourrais pas dire en termes de méthane, mais par contre, je peux donner un volume, une masse en termes de carbone. Donc, hop, voilà. Ici, donc, ce qu'on vous indique, c'est qu'il y a 1700 milliards de tonnes. On parle de gigatonnes quand on veut parler de milliards de tonnes. Il y a 1700 gigatonnes, donc milliards de tonnes de carbone qui sont contenues donc, dans ces terrains caractérisés par le permafrost. Et dans le premier mètre superficiel, parce que là, c'est dans l'ensemble du terrain, hein, comme on l'a dit, ça peut être jusqu'à importante, mais généralement, donc, la matière organique n'est pas très en profondeur. Dans le premier mètre, c'est 500 gigatonnes. Donc 500 milliards de tonnes sont contenues dans le premier mètre qui est caractérisé actuellement par le permafrost à haute latitude. Donc celui qui est évidemment le plus susceptible d'être affecté directement par la dégradation du permafrost. Donc ça fait effectivement des volumes tout à fait considérables, quoi. Là c'est, c'est la masse de carbone. Donc carbone aussi bien issu du dioxyde de carbone CO2 que du méthane CH4, quoi. Hein, c'est le carbone, là, c'est pas le CO2.
Est-ce qu'il y a des gros moyens mis dans la recherche sur le permafrost, que ce soit dans les Alpes ou dans les régions polaires? Je sais que Editem travaille dessus, mais qu'est-ce que ça représente à l'échelle de la recherche mondiale?
Alors, à l'échelle de la recherche mondiale, je dirais que c'est très marginal par rapport à l'ensemble de la recherche mondiale. En même temps, c'est un domaine qui s'est beaucoup développé ces dernières décennies, quoi. Alors, il y a des régions du monde où les recherches sont menées depuis longtemps et activement, même si, comme souvent vous l'imaginez bien, les moyens pour la recherche ne sont pas toujours suffisants, surtout pour certains types de recherches. Mais je le disais tout à l'heure, à la fois, donc, en Alaska, au Canada ou en Russie, ex-URSS, donc les travaux sur le permafrost sont anciens. Et dans les années 30, par exemple, il y avait une école soviétique de recherche sur le permafrost qui était déjà extrêmement, extrêmement active pour des raisons qui s'expliquent assez facilement. Pour ce qui concerne les Alpes, c'est beaucoup plus récent, je le disais tout à l'heure, c'est plutôt nos collègues suisses qui ont commencé dans les années, je dirais, fin des années 60, début des années 70, à travailler sur cette question-là. Dans la mesure où ils ont été confrontés davantage que nous ne le sommes à ce que représentent les Alpes pour la Suisse. Hein. Bon, pas simplement d'un point de vue symbolique avec le Cervin, bien sûr. Nous, c'est la Tour Eiffel, eux, c'est le Cervin. Mais parce que les Alpes occupent une place, évidemment, sur le territoire suisse qui est très supérieure à celle qu'occupent les Alpes par rapport au territoire français. Et donc, du coup, les recherches ont plutôt démarré pour ce qui concerne le permafrost de montagne du côté de nos collègues suisses. Et puis, ces recherches ont essaimé. Parce qu'aujourd'hui, la recherche se fait essentiellement en collaboration. Collaboration entre les universités, les laboratoires, mais également à l'échelle internationale. Et donc, du coup, depuis, je dirais, les années 2000, cette recherche est devenue active sur la question du permafrost dans les Alpes. Et pour ce qui nous concerne, au laboratoire Editem, on a été les organisateurs de la dernière conférence internationale majeure qui s'est produite sur le permafrost. C'était en 2018 à Chamonix, donc la 5e conférence européenne sur le permafrost. Pour donner un peu une idée du nombre de personnes qui étaient présentes, c'était 480 participants du monde entier, hein, les Chinois étant les premiers participants, les Russes les deuxièmes, etc. Depuis, il n'y a pas eu de grande conférence, pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire le Covid, qui fait que les conférences qui étaient prévues derrière donc, ont été annulées. Mais donc, dans notre laboratoire, il y a une petite équipe donc, qui travaille sur le permafrost de montagne. En France, il y a assez peu de monde qui travaille sur le permafrost. Hein. Il y a quelques collègues sur la région parisienne qui travaillent, ou à Caen, qui travaillent sur le permafrost d'un point de vue théorique, ou sur le permafrost plutôt en Sibérie. Et puis, pour le permafrost de montagne, c'est nous à Editem, et puis un collègue à Grenoble. Donc,
il nous reste quelques minutes, donc on peut prendre une dernière question. Alors, s'il n'y en a pas, bah, Philippe, je vais te laisser nous laisser le message à retenir de ce rendez-vous sur permafrost.
Bah, le message, je ne voudrais pas que ce soit un message trop catastrophiste, hein, parce qu'évidemment, ce que j'ai présenté ne laisse pas forcément augurer des choses très, très brillantes pour les prochaines décennies. Mais en même temps, pour ce qui nous concerne, nous, sur Chambéry, Savoie, etc., on a le bonheur, je dirais, de bénéficier en quelque sorte d'un milieu de haute montagne qui, même s'il est en cours de dégradation, nous présente encore des paysages qui sont absolument fantastiques, hein, que ce soit du point de vue des glaciers rocheux, qui sont des objets sur lesquels des gens s'excitent pendant 40 ans, ça peut paraître un peu étrange, hein, pour des tas de cailloux, ou que ce soit des parois rocheuses qui nous font notre admiration. Mais effectivement, comme pour les autres aspects liés au réchauffement climatique, il y a urgence. Il y a urgence à agir, parce que même si aujourd'hui on cessait d'émettre une large partie des gaz à effet de serre additionnels que nous émettons, eh bien, l'inertie est telle qu'il nous faudra quelques décennies pour qu'en quelque sorte les choses reviennent à une situation qui soit un peu plus favorable du point de vue climatique. Je dirais que les effets sur le permafrost nous touchent directement quand on est dans ces régions de montagne, mais nous touche également indirectement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, par les effets qu'a la dégradation du permafrost sur les hautes latitudes et sur le climat. Et donc, ben, du coup, c'est une bataille qu'il faut effectivement mener très activement. Donc, voilà, il y a peu de jeunes qui sont présents ici dans l'Assemblée, mais on le sait, la jeunesse, de ce point de vue-là, est relativement sensibilisée à ces questions de changement climatique. Et donc, on peut espérer qu'ils réussissent un peu à faire bouger les lignes, en quelque sorte. Voilà.
Philippe Delisle, merci infiniment. Vous pouvez l'applaudir. J'en profite pour vous donner deux prochains rendez-vous. Donc, dans le cadre de l'exposition Risque, il y a une visite commentée par un capitaine de pompiers qui travaille au ministère de l'Environnement pour nous parler du principe de précaution. Donc, c'est samedi 19 mars. Février, 19 février, donc 19 qui arrive, à 15h. Et le prochain rendez-vous entre midi et science aura lieu le 15 mars. Il s'inscrit dans la semaine du cerveau et on va rêver un petit peu puisque c'est rêve, un indispensable du sommeil. Merci à vous et bon appétit ou bon début d'après-midi. Merci beaucoup.